Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère de l'Intérieur, des personnes qui ont bénéficié de notre action à un moment donné, et un podcast qui raconte des histoires, des bribes de vie. Et aujourd'hui, on est dans un lieu très inhabituel, très inédit. On est à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dans une salle au rez-de-chaussée. Alors, on ne nous a pas bandé les yeux pour venir, mais on a quand même emprunté un espèce de parcours du combattant jusqu'à arriver à cette salle qui est emplie d'histoires. On y reviendra dans un moment avec mes deux intervenants. On va les appeler pour le moment Monsieur Y et Madame Z. Monsieur Y est un peu plus âgé que Madame Z, ils se présenteront tout à l'heure. Mais ils font tous les deux partie de cette grande maison des services de renseignement du ministère de l'Intérieur. Alors, Monsieur Y, vous êtes contrôleur général, c'est un grade très élevé. Non, vous n'êtes pas contrôleur général. Vous êtes au-dessus, pardon. Dites-moi alors.
Inspecteur
général. Inspecteur général. Donc, c'est effectivement un des grades les plus élevés parmi les policiers. Vous êtes récemment retraité de la police nationale. Vous êtes entré dans la police en 1974 et vous avez travaillé plus de 40 ans au service de renseignement. D'abord la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Et ensuite, vous avez accompagné différentes réorganisations de ces services. Mais vous allez tout nous raconter dans quelques instants. Madame Y, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez un nom de code ?
Comme tout agent d'enseignement, on a un pseudo-opérationnel.
Ah, vous n'avez pas le droit de nous le donner ?
Non.
Alors, vous resterez Madame Y pour nous aujourd'hui. Merci.
Parfait.
En tout cas. Je crois que vous êtes dans un service d'enseignement depuis 2014. Vous avez intégré la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Vous êtes contractuelle et non pas policière, comme beaucoup d'agents dans ce service. Et vous avez un master en sécurité internationale spécialisé en sécurité et défense. Et vous aviez, je crois, fait un stage de fin d'études à la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, qui est un autre service de renseignement.
Exactement.
Bon, vous allez tout nous raconter dans un instant. Et vous avez occupé plusieurs postes à responsabilité, tournés vers l'analyse, vers l'enquête, je crois aussi vers la technique et le cyber. Alors déjà, je voulais vous laisser la parole tous les deux, peut-être d'abord avec vous, Monsieur Y. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces années ? Qu'est-ce qui a tellement changé dans les services de renseignement ? Et qu'est-ce qui finalement a perduré parmi les 40 ans que vous avez passés en service de renseignement ?
Mais écoutez, j'allais dire que tout a changé, mais tout est demeuré. Ce qui est demeuré, c'est la façon de travailler. Ce sont les finalités, j'allais dire, les lignes de force du travail de renseignement. Ça, c'est immuable et ça ne changera pas. Pour le reste, tout a changé. A changé les moyens utilisés, ont changé également les mentalités aussi. C'est normal, chaque génération évolue. Ce qui a changé, c'est l'environnement. Parce que comme vous l'avez évoqué, j'ai connu la DST, la DCRI, la DGSI. Lorsque je suis arrivé à la DST, on occupait des locaux rue des Saussets. Après, on est passé rue Nélaton pour aboutir à Levallois. Alors, le cadre a également une importance. Voilà, et ça change effectivement les habitudes des gens. Oui, les choses ont évolué. J'allais dire, si je peux employer une formule rapide, les choses ont évolué, mais basiquement, elles n'ont pas changé.
Alors, est-ce que nos cibles, les espions étrangers, eux aussi ont changé ? Nous, on s'est réorganisés, on a changé d'environnement, comme vous l'avez évoqué, mais est-ce que les personnes contre lesquelles on lutte ont elles aussi évolué ?
Non.
Les basiques restent.
Les basiques restent. L'espionnage et donc le contre-espionnage est immuable. Le contexte politico-militaro-diplomatique change, mais non, le travail, lui, reste le même.
Les bonnes vieilles méthodes fonctionnent.
Le sens du travail reste. Les méthodes, elles, peuvent évoluer, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, globalement, les lignes de force sont les mêmes.
Alors ici, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une salle qui est très décoré, il y a beaucoup de matériel ancien qui est exposé. Notamment, j'ai vu tout à l'heure un tournevis piégé qui servait de cache pour des codes de transmission, un détonateur caché dans une boîte d'allumettes. C'est des choses qu'on voit dans les films, effectivement. Est-ce que, quand vous voyez des films à la télévision sur ce monde du renseignement et de l'espionnage, est-ce que ça vous fait rire ? Est-ce que c'est parfois proche de la réalité ? Est-ce que ça vous rappelle aussi des choses que vous avez pu vivre au cours de votre carrière ?
Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je pourrais vous dire que James Bond est aussi éloigné du renseignement que le voyage sur la Lune de Georges Méliès de la conquête spatiale. C'est comme lorsque vous lisez des romans. Il y a effectivement des choses qui sont réelles, mais globalement, c'est assez loin. Je dis bien assez loin de la réalité.
Alors, Madame Y, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre parcours et comment vous avez réussi à atterrir ici, à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ? Et sur cette question que je viens de poser à Monsieur Y, je crois que je me suis mélangée dans les X, les Y, les Z. C'est compliqué, les renseignements. Est-ce que vous, quand vous voyez à la télé des fictions de Jason Bourne, de James Bond, peu importe finalement, qu'est-ce que vous, vous en pensez aussi ? Il y a deux questions en une, en fait.
Pour revenir sur mon parcours, moi j'ai donc, comme vous l'avez dit, un bac plus 5. J'ai fait un stage de fin d'études à la DRM parce qu'à l'époque c'était le seul, il me semble, service de renseignement à proposer des stages au profil généraliste type sciences politiques, relations internationales. Ce stage m'a confortée dans mon envie de travailler pour un service de renseignement et donc j'ai fait une candidature spontanée à DGSI qui a été plutôt positive puisque j'ai intégré le service en septembre 2014. Moi j'ai commencé en tant qu'analyste opérationnel. Donc ce qu'on entend par analyste opérationnel, c'est avoir à disposition plusieurs capteurs de renseignements qui sont à orienter pour justement obtenir des informations, exploiter ces informations et en faire ensuite des notes, ce qu'on appelle les notes de renseignement ou des notes à destination des autorités politiques. Par rapport à votre question sur justement la fiction, les films, mon avis là-dessus, effectivement le métier que je viens de vous décrire n'a aucun rapport avec le métier d'un James Bond qu'on peut voir dans les films. C'est très très différent. Le rôle d'analyste en renseignement, enfin en tout cas moi ce que j'ai fait, c'est un rôle plutôt de bureau avec des opérations possible, mais qui est vraiment plutôt un rôle d'analyste, d'orientation de capteur, qui n'a rien du James Bond, qui va sauter de moto en moto, courir derrière les méchants. Voilà, nous, notre rôle, en tout cas moi j'étais donc à la sous-direction du contre-espionnage, l'idée c'était de détecter des actions d'ingérence sur le territoire national, en informer les autorités politiques, et voir peut-être mettre en œuvre des opérations d'entrave, si c'était validé, bien évidemment, par la hiérarchie.
Alors, quand vous nous dites capteur d'information, vous parlez d'éléments techniques, informatiques, ou alors il y a aussi des sources humaines qui vous font remonter de l'information ?
Alors, il y a plein de types de capteurs. Effectivement, il y a la source humaine, la source technique, la source partenariale. Voilà, on peut avoir plein de canaux, en fait, d'informations qui nous permettent justement de pouvoir recouper l'ensemble des éléments, des informations et en faire du renseignement qui peut être exploité en contre-espionnage ou même voire dans d'autres thématiques.
Alors là, depuis tout à l'heure, on parle de contre-espionnage, mais finalement, il y a plein de domaines d'action de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il y a par exemple une thématique qui est passionnante, la lutte contre la prolifération des armes nucléaires notamment. Il y a l'intelligence économique, la lutte contre l'intelligence économique. Vous travaillez dans quel champ pour le moment ? Vous êtes toujours sur des questions de contre-espionnage ?
Non, donc là actuellement je suis dans la sous-direction qui traite du cyber et je suis là en charge de l'orientation et de l'animation du réseau territorial cyber de la DGSI.
Donc ce sont des honorables correspondants qui travaillent
avec vous ?
Alors non,
ce sont des agents de la DGSI qui sont donc répartis sur l'ensemble du territoire et qui ont comme mission de suivre certaines entreprises ou certaines entités qui présentent une sensibilité particulière ou un savoir-faire innovant par exemple. Et qui peuvent être victimes d'actions d'ingérence étrangères. Les agents suivent ces entités pour justement essayer de faire des actions de prévention, de sensibilisation, de détection aussi, et de faire bénéficier du savoir de la DGSI pour entraver ou au moins détecter ces actions.
Quelque part, vous protégez l'État français, ses entreprises, grâce à votre action au quotidien, c'est bien ça ?
Le domaine cyber vient en continuité de la protection économique menée par la DGSI.
Et au fil de ces années, que ce soit dans ce service, dans ceux que vous avez précédemment, où vous avez précédemment exercé, est-ce qu'il y a une action particulière, même si je sais que vous ne pouvez pas tout nous dire dans les détails, est-ce qu'il y a une action particulière qui vous a le plus marqué, où vous êtes rentré en disant bah « là, c'est pas rien ce que j'ai fait aujourd'hui » ou ces semaines-ci ?
Je pense que la période qui a le plus marqué beaucoup d'entre nous, c'était bien évidemment les attentats qui ont été quand même impressionnants et d'une ampleur jamais connue, enfin pratiquement jamais connue. À cette époque, j'étais en renfort en contre-terrorisme puisque les contractuels ont été sollicités, enfin certains en tout cas, ont été sollicités pour venir en aide à la sous-direction du contre-terrorisme. Et c'est justement ces événements qui m'ont le plus marqué.
Alors vous, monsieur Y, est-ce qu'il y a une action particulière que vous retenez? Est-ce qu'il y en a une dont vous avez le droit de nous parler ou une action sans forcément nous donner de détails, mais voilà, qui soit force le respect, soit qui a vraiment changé la vie de personnes de manière importante?
Bah, vous savez, ce que je peux vous dire, c'est que de 1996, décembre 96, donc c'est l'attentat de Port-Royal, jusqu'à la malheureuse affaire Mera, 2012, bah, tous les attentats ont été arrêtés. Donc voilà, il y a eu plein d'autres actions. Hein. Bon, je pourrais vous parler du parapluie bulgare, je pourrais vous parler de Carlos, la traque de Carlos. La DST, pendant 20 ans, a traqué Carlos, qui avait tué deux de ses fonctionnaires et blessé gravement un troisième. Mais puisque votre question, c'est qu'est-ce qui a profité aux gens? D'abord, la DGSI, un service de sécurité intérieure, son rôle primordial, c'est de protéger les citoyens, protéger le pays, protéger la nation. Donc toutes ces actions visent à cette protection. Donc voilà, puisque bon, vous me demandez quelque chose de précis, c'est tous les attentats qui ont été évités de 96, les attentats pendant la Coupe du Monde de 98, la Coupe du Monde de football, les attentats qui étaient prévus pour le millénium et beaucoup d'autres. Voilà, c'est des actions réelles qui ont eu un impact sans que les gens le sachent, heureusement. Parce que c'est le problème du contre-terrorisme. Contre-terrorisme, c'est arrêter les actions avant qu'elles se passent. Mais si on les arrête avant, ben, tout va bien.
Voilà. Personne ne le sait, mais vous le savez.
Exactement. C'est un métier, dans la lignée de ce que vient de dire ma jeune collègue, c'est un métier où les satisfactions extérieures sont rares, puisqu'il n'y a aucune reconnaissance. Voilà, il n'y a absolument aucun système de védétariat au sein d'un service de renseignement, et c'est très bien comme ça. Mais les gens qui, eux, travaillent au quotidien, et parfois pendant très très longtemps, une affaire qui va se conclure par un retour chez lui d'un diplomate qui était en fait un officier de renseignement, personne ne va en parler parce qu'il n'y aura pas de publicité qui va être faite là-dessus, mais c'est l'aboutissement parfois d'années de travail. Donc la satisfaction, c'est une satisfaction vraiment intérieure.
Justement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent peut-être, moi un jour j'aimerais bien être espion, être agent secret, je ne sais pas comment on peut vous appeler. Quelle qualité il faut avoir? Justement, vous dites, faut pas avoir envie d'être une vedette ou raconter ses exploits parce que c'est tout l'inverse au quotidien. Quelle qualité pour vous il faut avoir pour exercer ce métier? Vous avez parlé tout à l'heure d'abnégation. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui vous viendraient? Il faut être acharné, j'imagine, parce que vous pouvez travailler des semaines, voire des mois sur une même affaire. Quelle est pour vous là ou les qualités principales qu'il faut avoir?
Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, il ne faut pas être trop bête quand même. Hein. Il faut être intelligent. Voilà, ça commence comme ça.
Il faut s'intéresser à tout.
Il faut au moins avoir la culture de domaine que l'on traite. Et les domaines sont extrêmement variés. Puisque si vous prenez tout le panel, vous avez évoqué donc la protection du patrimoine, le contre-terrorisme, le contre-espionnage. Donc ce sont des domaines extrêmement divers. Et à partir du moment où on s'occupe d'un domaine, effectivement, il faut s'intéresser au domaine que l'on traite. Il ne faut pas avoir un ego démesuré, ça c'est absolument pas possible. Il faut être équilibré. Il n'y a rien de pire que les mythomanes qui sont dans le renseignement. Donc il faut être extrêmement équilibré dans sa personne, mais également dans sa vie privée. Il faut avoir également une capacité à garder pour soi énormément de choses, parce que vous savez qu'on ne peut pas faire du renseignement si on n'évolue pas dans le secret. Tout ce qu'on fait, ça reste dans le bureau. Ça ne sort pas du bureau, ça va même pas dans le couloir. Donc, il est hors de question d'en parler à ses proches. Lorsque vous avez une activité professionnelle, ça fonctionne comme ça. La plupart des gens, il faut qu'ils en parlent. Leurs problèmes au bureau, leurs problèmes avec leur patron, les affaires qu'ils font, bon, à leurs conjoints ou à leurs proches. C'est hors de question dans le domaine de l'enseignement. Donc, il faut que la personne ait cette capacité à retenir ça en soi. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine forme d'humilité. Bon, vous voyez, je peux vous parler...
C'est une perle que vous nous décrivez, là.
Oui, mais c'est une perle. Mais si on veut, effectivement, être à la fois efficace et être un bon officier de l'enseignement, il faut avoir ces qualités-là.
Vous êtes d'accord, Madame Zen?
Oui, je rajouterais aussi la capacité à s'adapter. Alors bien évidemment, en fonction de ses missions, on n'a pas les mêmes compétences requises. L'enquête qu'il y a dans la plupart des missions à la DGSI nécessite justement de savoir s'adapter aux capteurs qui sont à notre disposition, aller chercher l'information là où on peut la trouver. Les missions à l'extérieur, les opérations sur le terrain nécessitent aussi de justement savoir s'adapter puisqu'on ne peut pas se présenter S-qualité. Et donc il faut savoir jouer un petit peu avec
Vous avez plein d'identités en fait, plein de professions, plein d'identités.
Non mais il y a des formations en interne justement pour savoir improviser, savoir par exemple si on est en traitement de source dans un restaurant et qu'on croise quelqu'un qu'on connaît, il faut savoir justement réagir pour essayer de s'en sortir comme on peut. Quoi.
C'est un peu comme dans les films, moi. Malgré ce que vous m'avez dit, je trouve que c'est un peu comme dans les films.
Ah, c'est un domaine qui fait fantasmer, hein, ça c'est clair.
Est-ce que c'est important et intéressant dans un grand service d'élite comme le vôtre, qui est aussi des jeunes générations avec peut-être des compétences différentes des anciens, peut-être vous êtes très fort sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez des grandes capacités pour trouver des choses en source ouverte. Est-ce que vous voyez l'intérêt qu'il y ait des jeunes, parce que vous êtes jeune, moi je vous ai en face de moi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie évolution dans la politique de recrutement à la DGSI, avec notamment l'arrivée des contractuels. Il y a une volonté d'abord de professionnaliser certains domaines. Je pense notamment à un domaine type les domaines de soutien comme l'informatique, avec des ingénieurs, des contractuels qui sont recrutés, qui ont une compétence rare et particulière. Ensuite, il y a aussi une volonté de diversifier certains profils. Les contractuels, effectivement, je pense que... Enfin, pour en avoir beaucoup discuté, ça a été un gros bouleversement à la DGSI, qui était une maison avec une forte culture policière, qui l'est toujours d'ailleurs. Mais les contractuels, effectivement, viennent chambouler un petit peu cette culture, avec des évolutions, comme vous dites, de génération, de statut, qui font forcément qui demandent forcément à faire évoluer la façon de travailler.
Qu'est-ce qu'on se dit tous les jours à la machine à café quand on a le droit de rien se dire finalement? Comment ça se passe les relations au travail quand tout est couvert par le secret? Est-ce qu'on raconte qu'on a visité sa vieille tante à la maison de retraite ou qu'on a planté ses tomates? Qu'est-ce qu'on se dit finalement?
Mais vous savez, le travail, c'est pas 100% de la vie. Voilà, heureusement, il y a bien d'autres sujets. Donc les gens qui travaillent dans ce service ne sont pas polarisés sur leur travail, ils peuvent parler de totalement d'autre chose. Je voudrais revenir parce que c'est... Elle a totalement raison, ce qu'a dit Madame Z. Vous voyez, moi, je me souviens.
Mais je suis sûre que vous avez...
Voilà. Non, c'est une habitude. Hein. Bon, comme, lorsque j'ai débuté...
Vous mémorisez beaucoup plus.
Lorsque j'ai débuté à la DST, on s'appelait par notre pseudonyme. C'est une habitude. Ce n'est plus le cas maintenant, hein, je vous rassure. Les jeunes générations sont quand même plus normales, on va dire ça comme ça. Et donc, l'adaptation, c'est fondamental. Parce que vous avez compris que le panel... Dans un service comme la DGSI, ça va du groupe d'intervention de la DGSI, le GAO, jusqu'aux analystes les plus pointus dans des domaines extrêmement précis. Et vous pouvez, au cours de votre carrière, changer d'affectation. Il faut vous adapter. Et chaque fois, comme j'ai déjà dit, il faut vous intéresser à votre nouveau domaine. Donc il faut s'adapter constamment, au-delà du fait qu'effectivement, il faut savoir s'adapter sur le terrain à des conditions opérationnelles.
Alors moi, je me demandais aussi quelles étaient finalement nos relations avec les pays étrangers. Est-ce que vous travaillez avec tous nos pays alliés? Est-ce que vous échangez de l'information? Comment ça se passe, cette coopération internationale, finalement, aujourd'hui? Est-ce que tout est dématérialisé? Est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'on passe d'un pays à l'autre pour aller chercher de l'information? Ou est-ce que ça, c'est encore dans mon imaginaire?
Comme ce qui a été dit, vous savez, il y a trois sources d'information. C'est-à-dire que, non pas le renseignement, parce que le renseignement, c'est ce qui sort, ce qui est livré à l'autorité qui a besoin du renseignement. Et c'est l'accumulation de plus d'informations qui donne un renseignement. Et bien, ces informations viennent de trois choses. La source humaine, qui est absolument fondamentale. Dites-vous bien qu'aucune grande affaire d'impact médiatique important n'a été faite sans qu'il y ait eu au départ une source humaine. C'est très clair. La deuxième, c'est la source technique, bien sûr, parce que ça donne une capacité extrêmement importante. Encore faut-il auparavant savoir ce qu'on cherche. Et la troisième, c'est la coopération internationale. Donc les échanges avec les services, ils sont nombreux, variés, importants et avec tout le monde.
Même avec ceux dont on est moins proche, on va dire comme ça.
Bien sûr.
Je crois qu'il y a une expression, faut être proche de ses ennemis.
Il y a une maxime, dans le renseignement, il n'y a pas d'amis.
C'est encore plus simple.
Il n'y a que des alliés. Parfois,
il n'y a pas d'amis, il n'y a que des
alliés. Voilà, parfois permanents. Mais il n'y a pas d'amis. Donc je suis désolé, hein, c'est pas un métier très romantique. Hein.
Si, c'est romantique.
Moi, je voulais juste rajouter que ce qui a surtout évolué, c'est pas tant les échanges avec les partenaires étrangers à la DGSI. Enfin, il me semble, vous m'arrêterez si je me trompe, mais il me semble que même à l'époque de la DST, le service était déjà extrêmement connu pour avoir des relations très bien établies à l'international. En revanche, je pense que la grande évolution qu'il y a eu à la DGSI, c'est surtout l'ouverture avec les échanges inter-services. Entre services de renseignement. Il y a eu la communauté du renseignement qui a été créée, qui a rapproché quand même énormément les services du premier cercle de renseignement. Et on a de plus en plus d'échanges inter-services, des échanges de renseignement, mais également de personnel qui sont de plus en plus, qui échangent de plus en plus de maisons. Et ça permet aussi de faire évoluer la culture vers une culture du renseignement et pas qu'une culture de maison.
Alors vous avez parlé du renseignement du premier cercle. Le premier cercle, c'est le cercle le plus secret, là où on a le plus de moyens finalement intrusifs pour aller capter l'information. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a plein d'autres services qui vous donnent des informations et vous travaillez finalement avec tous les policiers, tous les gendarmes et plein d'autres services, on ne va pas tous les nommer, avec lesquels vous travaillez. En termes d'innovation, comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que d'ailleurs vous travaillez avec des entreprises privées, avec d'autres pays étrangers, pour finalement toujours vous moderniser, aller chercher les moyens les plus innovants pour vous transformer aussi, pour jamais être en retard finalement, mais plutôt toujours être à la pointe?
Déjà, l'arrivée de profils spécialisés permet d'être toujours dans l'innovation. Il y a un gros pôle d'innovation à la DGSI, avec beaucoup d'ingénieurs et contractuels qui ont été recrutés pour justement développer les outils d'enquête mis à disposition des enquêteurs. Ça permet d'être à la pointe de ce qui se fait sur le marché. Il y a aussi de plus en plus de contacts inter-services avec la mutualisation de certaines capacités d'enquête avec les services de renseignement, mais également des échanges de plus en plus importants, je pense notamment sur le domaine cyber, avec les entreprises privées qui peuvent aider le service régulièrement.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
C'est une vaste question. De toujours m'épanouir dans mon travail. Et pour l'instant, la chance que j'ai eue, c'est que la DGSI m'a offert des évolutions et des opportunités de carrière. Donc j'espère que ça pourra continuer.
Et on vous souhaite le meilleur et surtout continuer à nous protéger, même si on ne le saura jamais. On sait que vous veillez sur nous et ça, c'est sans doute le plus important. Monsieur Y, quand vous voyez une jeune collègue, vous l'avez appelée vous-même comme ça, est-ce que ça vous fait chaud au cœur ? Qu'est-ce que vous vous dites, vous qui avez quand même vu passer pas mal de monde au cours de ces années dans ce service ?
Oui, j'ai vu passer beaucoup de jeunes qui sont devenus vieux, hein, oui, ça c'est clair. Eh bien écoutez, c'est très très bien.
La relève est là ?
Oui, bien sûr, la relève est là. C'est ce que je vous disais au départ, donc les lignes de fond sont les mêmes. Les choses évoluent, le service lui-même évolue en même temps qu'arrivent des forces nouvelles, des compétences nouvelles et parfois aussi des menaces nouvelles. Donc il faut s'adapter, adaptation, toujours adaptation, évolution.
Merci à tous les deux, Monsieur Y, Madame Z. Voilà, merci, je l'ai bien dit à la fin du podcast, j'ai réussi. Merci encore d'avoir accepté de nous faire part de vos témoignages dans ce podcast vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Et d'ici quelques jours, on va continuer ce débat sur le recrutement au sein des services de renseignement sur un Twitter Space, donc pour continuer à évoquer tout cela avec nos auditeurs et avec les socionautes qui s'intéressent à ces questions. Merci encore à tous les deux et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci.
À vous aussi, merci.